On va partir dans littéralement du noir, du sombre, du très très sombre, puisque Universal War One est une série qui est sortie en 6 tomes chez Soleil et maintenant donc chez Cadran Solaire. Dessiné et scénarisé par Denis Bajram, on peut dire que Denis Bajram il a fait un final qui est aussi glaçant que le reste, assez brutal et énorme. Voilà, résumé des histoires précédentes. Universal War One, c'est l'histoire la Légion Purgatory. C'est une espèce de tête brûlée dans l'espace, c'est-à-dire des gens que l'armée spatiale de l'ONU a préféré mettre un peu à part et exiler loin du côté de Saturne, si je me souviens bien. Le problème, c'est que en fait, il y a une guerre qui se déclare avec le consortium chargé de l'exploitation exclusive des planètes autres que la Terre dans le système solaire. Résumé des épisodes, c'est que la Terre a été détruite dans ce conflit. Le berceau de l'humanité a été incinéré, tout comme 20 milliards d'âmes, par un trou noir apprivoisé dans un chantage financier de multiplanétaires. Et donc, l'ensemble de la race humaine a été mise en esclavage par ses propres pères, devenus maîtres d'un conglomérat d'entreprises, concessionnaires exclusifs de la conquête spatiale, et donc désormais de l'humanité. Privée de ses origines, celle-ci ne peut que se soumettre. Oui, mais le reste de l'escadrille Purgatory a peut-être une chance de remettre les choses en ordre, ayant fortuitement découvert le voyage instantané dans l'espace, et peut-être le temps. Sous la surveillance des compagnies industrielles de colonisation, nous avons donc pu essayer de rencontrer Denis Bajram dans sa géole. C'était lors du festival d'Angoulême en janvier dernier, et donc, il nous a fait l'honneur d'une interview assez longue. Denis Bajram, bonjour.
Bonjour.
Ça n'est pas la première fois que l'on se voit. La dernière fois, c'était il y a longtemps, une interview en vidéo. Alors, la première chose que j'ai à dire, la fin de Universal War One, on mesure que l'ambition impressionnante du scénario t'est finalement arrivée jusqu'au bout. Et là, quand même, respect.
Bah merci, c'était un peu le but du jeu. C'était tout bête, il suffisait d'écrire avant. Il n'a l'air de rien, ça paraît être une évidence, mais je sais que beaucoup de mes collègues n'ont pas pris cette bonne habitude. Et c'est vrai que moi je l'avais entièrement écrit les 6 tomes 8 ans avant de le finir le dernier. Ça aide à pouvoir faire des croche-pattes à son lecteur plus facilement quand même.
D'accord. Et justement, lors de cette interview qui a été réalisée, je crois pour la sortie du tome 2 ou du tome 3, tu parles dedans que tu as matière pour faire deux autres séries de 6 tomes toujours dans le même univers et d'un roman. Qu'en est-il ?
Ça n'a pas changé, j'ai toujours la matière. Il y a eu un essai avec un dessinateur, mais ça m'a fait bizarre de voir des pages dans d'autres mains. Donc pendant un temps j'ai dit s'il y a UW2 ce sera moi qui le dessinerai, et puis finalement je suis en train à nouveau de réfléchir parce que j'ai revu un autre dessinateur, pourquoi pas. Donc pour l'instant en tout cas c'est clair, c'est toujours dans l'air, mais je ne peux pas te donner de date, de lieu, d'heure et de possibilité. Voilà.
C'est peut-être aussi parce que cela te prend beaucoup de temps de réaliser les albums pour avoir le niveau graphique que tu souhaites.
C'est long, c'est clair, mais c'est surtout que j'ai UW1, c'est 30% de ma vie et j'ai plein d'autres choses passionnantes à faire. J'ai pas envie de devenir l'homme d'une seule série et d'un seul univers. J'ai peur de m'emmerder quand même assez vite si je fais ça. Quoi.
D'accord. Le voyage dans le temps, c'est plutôt quelque chose qui est très très difficile à mettre en scène, et notamment pour éviter d'avoir une incohérence à cause évidemment des paradoxes spatio-temporels et tout le reste. Tu t'es repris combien de fois pour écrire le scénario ?
Ah, c'est le premier jet. En l'occurrence, il suffit d'avoir fait des maths. Voilà. J'ai la chance d'être un matheux naturel. À l'école, il y avait tous mes copains qui avaient mal à la tête et moi qui fais « Ah bah oui, c'est logique !» Donc j'ai écrit le scénario de cette manière-là. Donc franchement, ça a été vraiment facile. Maintenant, je comprends. J'ai réalisé que c'était très difficile pour les trois quarts des gens, mais moi, ça m'a posé aucun problème. Quoi. Il suffit d'être logique. Le voyage dans le temps, c'est le respect de la logique. C'est un pur exercice de logique, ça ressemble à faire du sudoku, j'imagine, ou je n'ai jamais fait, mais ça doit être ce genre de choses, ou du Rubik's Cube, quoi. Donc c'est lent, avec un peu de patience, on y arrive. Voilà.
Et le fait que tu nous avais raconté précédemment, dans une précédente interview, que en fait ton désir de voyage dans l'espace était suite à un voyage à Kourou, tu as envoyé à l'équipe qui est à Kourou tes albums pour voir leur réaction ?
Non, c'est plus les mêmes que l'époque où j'y étais, moi j'imagine, mais... Non, 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 mais là de rien, le temps passant, le regret de ne pas avoir été astronaute est en train de passer. Quoi. Je me rends compte que j'aurais consacré beaucoup de temps de ma vie à conduire des avions, que c'est peut-être plus intéressant de se servir de son cerveau à autre chose. Voilà.
Ça, c'est magnifique. Dans certains de tes albums, c'est quand même de l'art science et avec un graphisme assez technique et assez réaliste. Tu y insères des dessins qui rapprochent un peu à des dessins caricaturaux du dessin de presse de l'entre-deux-guerres. À quel stade de la production t'es venue cette idée ?
Je ne sais pas. Franchement, c'est vu comme ça. Au moment où je racontais les événements historiques de l'histoire, il me paraissait logique de convoquer le dessin de presse, ce genre de choses. Donc la question c'est pas posée du tout. Quoi. C'est, encore une fois, les UW1, c'est naturel pour moi. Les personnages, l'histoire, la logique, tout ça c'est moi-même. Ce n'est qu'une extension de moi-même, cette histoire-là. Apparemment, j'ai pas un moi-même très standard, vu comment les gens ont l'air surpris en lisant. Donc je vais me faire enfermer par les messieurs en blanc, et avec les gyrophares bleus sur le toit. Mais pour l'instant, en tout cas, tout ça n'est pas... Finalement, c'est très réfléchi, mais de manière très naturelle. Voilà.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une science-fiction qui est très riche, très mûre, et surtout qui ne s'arrête pas uniquement à l'aspect science-fiction. Donc ça tord énormément le coup aux idées reçues. Et l'idée d'avoir fait de très longs narratifs, donc plutôt que le lecteur s'ennuie, on va y mettre du dessin de presse, c'est plutôt inédit, ça. Je ne pense pas avoir vu ça ailleurs.
Ah, si ça existe, ne serait-ce que on peut reprendre l'exemple de Frank Miller jouait beaucoup avec ça. Alors c'était pas le dessin de presse, c'était l'imagerie télévisuelle américaine des années 80, mais il avait très bien compris ce genre de choses. Il y a genre de trucs chez Fabrice Do, par exemple, je pense, dans le journal chez Gokomi, tout comme ça. Donc non, j'ai pas l'impression d'être un novateur là-dessus. Ce qui m'étonne, c'est que les autres n'utilisent pas ce genre d'artifice, encore une fois.
Il y a des clins d'œil vachement frappants visuels dans la BD dans Universal War One, c'est que les personnages sont souvent tournés de la même façon avec le même cadrage. Surtout pour le héros qui on voit suivant les pages, en fait, il y a toujours une image qui revient. En fait, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que tu as pris l'habitude de dessiner comme ça et qu'en fait, comme tu le dis à la fin, tu arrives difficilement à changer d'attitude, etc.
Je pense que c'est inévitablement ce qui arrive quand on fait beaucoup de dessins, on finit par se répéter. Et on a des images qu'on adore et qu'on refait éternellement, même si évidemment elles sont toujours différentes. Il y a un copain qui me racontait que toute sa vie de dessinateur, c'était de réussir à refaire un dessin de Buscema qu'il avait vu de Conan dans son trône, et qu'il ferait ce dessin dans tous ses albums, évidemment camouflé, parce qu'il peut pas faire Conan, quoi, mais et toute sa vie, et qu'il serait jamais content, et les gens vont débarquer en lui disant mais pourquoi les mecs sont assis dans les fauteuils de manière vautrée comme ça, avec les mains sur les accoudoirs. Voilà. Et ben c'est sans doute un peu pareil pour ces histoires de portraits, je pense. Je vais avoir un complexe, je sais pas, c'est un dessin de Velázquez, regardez, parce que je suis un énorme admirateur de Velázquez, il fait beaucoup de portraits en trois quarts comme ça, genre le pape innocent, je sais pas si vous voyez cette peinture, qui a été repris par Bacon depuis. C'est pas impossible que ce soit le genre de cadrage. J'ai jamais regardé, mais il y a peut-être ce genre de choses qui de combat permanent avec un modèle comme ça.
T'inquiète, on les a relevés. On les a mis au surligneur d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant, c'est par rapport à ta première série Cryozone, Universal War One, c'était vraiment un saut quantique au niveau graphique. Mais néanmoins, en re-regardant tes précédents tomes, est-ce que tu n'as pas des regrets, que cela soit au niveau du scénario ou au niveau du dessin, des faiblesses que finalement t'aurais aimé faire autrement ou corriger ?
Oui, un petit peu, mais. En me lançant dans un projet sur 6 ans et qui sont devenus 8 ans avec le temps, je savais que j'allais vivre ça, donc c'était des regrets acceptés depuis le départ. Donc non, je suis plutôt content. Je m'attendais à plus de regrets, je dois dire. Donc bon, j'en ai quelques-uns inévitablement, mais j'ai déjà des regrets sur le dernier tome, hein, donc on vit comme ça avec son travail. Hein. Non, franchement, ça va. Là-dessus, j'ai pas encore le complexe d'Hergé, l'envie de refaire tout de manière unifiée. Ça viendra sans doute, mais pour l'instant, ça va.
En cours de production de l'album, tu t'es mis au dessin virtuel, puisque tu utilises de plus en plus la table graphique. Quels sont les logiciels que tu utilises pour la production ?
Je travaille uniquement avec Photoshop, en fait, qui est le logiciel standard de retouche d'image de Adobe. Adobe, comme on doit dire normalement, c'est en anglais.
Tu dis ça parce que tu te fais de plus en plus sponsorisé par eux ?
Je suis pas sponsorisé, on a fait des salons ensemble, etc. Alors j'ai mis le logo sur le bouquin. C'était vraiment un remerciement par rapport au boulot qu'on avait fait ensemble, au bon contact qu'il y avait eu, au salon partagé, etc. Et eux, à un moment, comme ça s'était bien passé, on dit « Ah, mais on offrirait bien nos bouquins à nos clients, etc. » Donc on leur a passé 400 bouquins qu'ils ont offert à leurs gros clients et on a mis le logo dessus, comme ça c'était rigolo, quoi. Mais c'est avant tout une demande de ma part, en fait. J'ai eu la chance de rencontrer certains membres de l'équipe, et c'est vrai que je trouve vraiment que Photoshop est un formidable logiciel et j'avais envie que de dire il n'y avait pas besoin d'aller sur des pseudo-logiciels de dessin comme Painter, pour ne pas le nommer, pour pouvoir faire du vrai dessin vivant, et que Photoshop était un outil tellement parfait qu'on pouvait tout faire dedans. Quoi.
Donc en fait, c'est parce que tu as tous les outils sur Photoshop pour faire ce que tu veux faire, ou parce que tu trouves que Painter, franchement, ça c'est pas adapté à ce que tu à ta production?
Pour moi, Painter, il y a un truc qui n'est pas logique. On prend Painter, on tire un coup de pinceau et ça a l'air d'être faire l'huile. Moi, je fais de l'informatique, je fais pas de la pseudo-huile. L'imitation de la main de manière automatique, il n'y a rien de plus chiant. Photoshop, c'est un logiciel brut, c'est-à-dire que c'est quasiment un univers de programmation du pixel, on va dire. On est obligé d'apprivoiser pour pas avoir un rendu sec. Mais au moins, on n'est pas en train de faire une pseudo-imitation d'un pseudo-support qui n'existe pas. Donc pour moi, tous les trucs faits sous Painter, dans la seconde, je sais que c'est fait sous Painter, parce que ça ressemble à de la pseudo-huile, à du pseudo-charbon, à du pseudo-aquarelle, etc. Donc, alors que dans Photoshop, on est obligé d'apprendre à l'apprivoiser. Maintenant, le rendu que j'ai dans Photoshop, personne d'autre ne l'a. Évidemment. Donc, c'est une vraie démarche artistique. On est en train de dominer un média, on n'est pas en train de faire semblant de savoir faire de l'aquarelle, en clair.
On a vu qu'un dessinateur chinois qui est en train de percer chez un éditeur qui s'appelle Xiaopan, et le dessinateur s'appelle Benjamin, a sorti en Chine des méthodes graphiques pour justement apprendre à maîtriser Photoshop pour faire la bande dessinée. Est-ce que toi, tu souhaiterais faire de même à côté de tes productions d'albums?
Ça prendrait énormément de temps. Alors, je donne des petites conférences en fait. Donc, je faisais justement avec Adobe sur le genre à l'Apple Expo, etc. Pas pour dire aux gens comment faire. Dans toute franchise, je pense que les règles, c'est très bien. C'est très important d'en avoir et c'est tout aussi important de les oublier dans la minute. Donc, j'essaie surtout de leur montrer que dans Photoshop, avec deux outils, c'est mon cas, on peut tout faire. Que c'est simple et qu'il faut pas avoir peur du logiciel, il faut pas se laisser dominer par lui, qu'au contraire, finalement, c'est pas plus dangereux qu'un papier ou un crayon. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile à maîtriser, comme un papier et un crayon, et c'est en même temps extrêmement simple, il suffit de prendre son papier et son crayon, de tirer un trait et on a quelque chose. Et c'est vraiment l'envie de montrer ça. Après, expliquer comment moi, de manière méthodologique, exactement je fais, franchement, que les gens fassent leur tambouille et découvrent leur propre méthode, la standardisation autour de 2-3 méthodes, c'est vraiment saoulant.
D'accord. Mourad Boudjelal, le patron de Soleil Productions, qui est ton éditeur, t'a fait énormément confiance puisqu'il t'a carrément proposé de monter ta structure éditoriale, Quadrant Solaire. Alors, qu'est-ce que tu aimerais y mettre dans Quadrant Solaire?
Ce qui va y paraître, puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui arrivent. En fait, au départ, Mourad, il y a quelques années, avait fait une certaine pression pour qu'on devienne directeur de collection, mais on en avait dit non parce qu'on voulait pas passer de ce côté-là du fossé, on va dire. Et puis, ces derniers temps, on a vraiment, Valérie et moi, donc mon épouse Valérie Mangin, qui est scénariste aussi, on a vraiment commencé à trouver qu'il y avait une très mauvaise dislocation de la bande dessinée, avec d'un côté une bande dessinée très populaire, parfois trop populaire pour le supermarché, etc. Et le côté une bande dessinée parisio branchouille
avec des trucs de librairie, de bande dessinée quoi.
Même pas, non carrément de branchouille, on va dire pour Télérama, France Inter, etc. et tout. Avec des trucs très bien encore une fois les deux côtés. Hein, c'est pas et que moi la bande dessinée la bande dessinée qu'on aimait, elle est au milieu. C'était Christin et Mézières, Christin et Milal par exemple, le même Christin pouvant faire la partie de chasse qui est un récit politique avec un Milal et puis la grande aventure cosmique mais avec du sens et un peu de social dans Valérian à l'époque et que ça, de fait, c'est en train de devenir interdit séjour. Or c'est ça la bande dessinée qui nous avait donné envie de faire de la bande dessinée. Et il y avait vraiment eu envie de défendre ça. Et donc on est revenu auprès de Mourad en disant écoute, nous, on a envie de faire ça. Alors on sentait que c'était pas comme Soleil, il y a une image là très populaire et très ado. On s'est dit qu'on allait devoir bêtement lutter contre cette image-là si on voulait faire ça. Donc on lui a proposé de monter une autre image, une autre marque, donc Cadran Solaire et une marque parallèle à Soleil pour défendre ces valeurs-là. Il nous a tous très bien compris, très bien suivi, c'est remarquable de sa part.
Tu parlais de Mézières et de Bilal tout à l'heure. En fait, ils ont été approchés au début des années 80 pour faire de la SF avec les ricains à Hollywood. Est-ce que toi, tu as été approché aussi de ton côté? Est-ce que tu voudrais participer à ce genre d'aventure?
Quand quelqu'un arrive du cinéma, en général, je dis que je veux pas. Je me dis toujours que celui qui voudra vraiment, il reviendra. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas eu un, hein, apparemment. Parce que souvent, c'est vrai que par exemple, UWA, on m'a souvent proposé d'acheter une option dessus, de prendre les droits. Et j'ai toujours non, je veux pas vendre. C'est marrant, j'ai découvert que Frank Miller avait fait la même chose pendant 10 ans sur Sin City. il y en a un qui a forcé la porte trois fois et genre, il a su que ce serait le bon, quoi. Voilà. Et mais je savais pas avant, donc je me souhaite le même sort que Frank Miller. Ça serait bien. Je serais très content d'avoir un W1 par exemple au cinéma, une belle adaptation, vraiment bien faite, etc. Mais il faut que la personne ait un moral à toute épreuve, parce que ça se rapproche de très lourd. Donc il y a sacrément intérêt à ce que le réalisateur et le producteur y croient.
Oui, et puis c'est quand même relativement difficile de compiler 6 albums de manière cohérente en un long métrage. Par contre, il y a eu un dessin animé de fans qui a été fait en Flash en 2000 à l'époque. Tu verrais plus en production télévisuelle ?
Non, vraiment, je verrais. On m'a dit que ce serait rigolo d'en faire une série. C'est vrai qu'on voit Galactica, par exemple, récemment. Je pense qu'ils ont eu quelques bouquins en main, mais ils ont relativement réussi ce genre de choses. Mais franchement, l'ampleur budgétaire pour faire, parce que le récit quand même implique énormément de choses et très spectaculaires, des gros moyens et tout. Je vois plutôt un long métrage de 3 heures. Mais faudrait réécrire l'histoire de manière différente. Hein. Ce serait une sorte de raccourci. Et tant mieux, parce que à la limite, les gens après qui voudraient en savoir plus liraient une bande dessinée. On a comme finalement quand on résume Proust en un film. Ça n'empêche personne d'aller justement lire derrière la recherche du temps perdu.
Denis Bajram, merci beaucoup.
Merci à vous.